Ici Max Cohn, nous sommes à l'université Concordia à Montréal le 29 mai 2009, au colloque sur les exhibitions françaises, et je suis avec un des organisateurs, Pierre Popovic, qui est professeur titulaire à l'université de Montréal. Alors dites-nous, Pierre Popovic, quelle est l'idée organisatrice de ce colloque qui se situe dans tout un travail d'équipe depuis de longues années?
Ce colloque-ci donc s'intitule Les exceptions françaises au pluriel. Il porte sur ces exceptions françaises entre 1958 et 1981. Et l'expression paraissant dans le titre au pluriel est déjà singulière, dans la mesure où on a plus l'habitude d'entendre l'expression au singulier l'exception française ou l'exception culturelle. Et c'est bien de cela qu'on est parti, à savoir qu'en 1986, donc dans les négociations du GATT, appelé Uruguay Round, il est question soudain, ce sont les Français qui avancent ça, de dissocier les règlements portant sur les biens culturels des règlements portant sur les biens manufacturiers, sur les marchandises en général, et donc d'établir là des règlements commerciaux tout à fait spéciaux, et par exemple des quotas respectant les identités collectives nationales. Et c'est la France qui mène cette joute-là, qui engage ce débat-là, et elle le fait donc de telle manière, avec suffisamment de force, pour que les deux expressions, exception culturelle et exception française, deviennent pendant un certain temps au moins, disons, pratiquement des synonymes. Or bon, nous n'avons pas, nous, de spécialisation en politique, loin de là, nous sommes des littéraires essentiellement, parfois des gens qui s'occupent de cinéma ou de musique nous accompagnent. Donc nous intéressons à des questions un peu différentes de celles des accords commerciaux du GATT, mais on s'est dit tout de même qu'il était curieux qu'une telle expression, l'exception culturelle ou l'exception française, soit comme cela, soit apparaisse comme cela soudainement. On voyait bien qu'elle avait une certaine origine politique du côté de Malraux, par exemple, à l'époque où il est ministre sous De Gaulle, mais on s'est dit, pour que cette expression ait si facilement une force, disons, de persuasion et d'attraction, il faut que ce soit un peu préparé à l'avance dans des discours, dans des œuvres littéraires ou cinématographiques ou picturales. Et donc, en piochant un peu sur cette idée-là, on s'est avisé du fait que durant les années 58-81, alors que pourtant la France est pas mal, disons, assez bloquée sur le plan social, enfin, ça change après De Gaulle, bien entendu, après 68, il y a beaucoup de choses qui se mettent en mouvement, mais ça part, disons, après la Seconde Guerre mondiale, d'un état assez sclérosé ou assez bloqué sur le plan social et politique. On s'est avisé du fait que déjà sous De Gaulle, et puis ça s'aggrave avec les années 60, la fin des années 60 et les années 70, on s'est avisé du fait que pas mal d'individualités étaient présentées comme à la fois typiquement françaises et comme étant exceptionnelles. Et donc on s'est dit, bon voilà, il y a là peut-être, c'est notre hypothèse, on va voir si ça tient un coup dans ce colloque, il y a là peut-être une préparation d'une retotalisation ultérieure à travers un certain nombre de figures disparates, donc par exemple l'athlète français Michel Jazzy à l'époque va incarner ça, ou bien un alpiniste comme Maurice Herzog, ou bien se reprend des femmes, il y a un célèbre exploit à Mexico, je crois, de Colette Besson qui gagne contre toute attente une médaille d'or aux 400 mètres dans une course échevrée où elle va être présentée comme une sorte de nouvelle Jeanne d'Arc du sport, somme toute. Donc elle est à la fois exceptionnelle, vous voyez, elle gagne une médaille d'or, c'est très rare pour une femme française à l'époque, mais elle est présentée comme typiquement nationale, comme typiquement française. Donc il y a elle, par exemple, il y a aussi, disons, l'intellectuel contestataire qui va gagner là une aura stupéfiante après 68. Dans le colloque ici, des amis de Liège vont présenter des communications sur l'ennemi public numéro 1, notamment sur Kamesrine, qui va lui aussi se présenter comme un bandit typiquement fabriqué par la société française. Moi, je vais m'intéresser à certains grimpeurs cyclistes dans le Tour de France.
C'est déjà le cas au précédent colloque.
Et le présent colloque, je ne m'intéressais pas aux grimpeurs.
Non, mais c'était des cyclistes.
Oui, oui.
Un dessin animé.
Il y avait un dessin animé, oui, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs.
C'était sur le français moyen, le précédent colloque.
Il y a eu deux colloques antérieurs. Nous emportait, nous étions donnés, c'était la première manifestation du groupe de recherche qui regroupe donc maintenant des gens.
Comment il s'appelle ce groupe?
Il s'appelle l'EDI, ça veut dire Équipe Discours Imaginaire Société Texte. Le projet même porte sur littérature et imaginaire social en France de 58 à 81. Et ce projet est inscrit maintenant dans un centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes que nous avons fondé ici à Montréal, mais qui regroupe des gens d'un peu partout, une cinquantaine de chercheurs actuellement. Et donc ce centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, autrement dit le CRIST, hein, l'acronyme est Sengwiga. Vous pouvez voir sa programmation en allant sur le site du Christ qui est...
sur le site du Christ,
c'est... Oui, sans achat, cependant, nous n'avons pas voulu être insultants envers le Fils de Dieu. Donc nous avons fait deux colloques antérieurs au sein de ce projet donc, de Guidi. Le premier était consacré à un artefact, somme toute, à une espèce de corpus qui n'a pas de bon sens en dehors de sa propre légitimation interne, à savoir l'ensemble des prix Goncourt donnés entre 58 et 81. Et donc ça a été publié, ça, dans les actes ont été publiés dans un numéro de la revue Discours Social. Et là-dedans, effectivement, moi j'avais une étude portant déjà sur le cyclisme parce que je prépare une sociocritique du Tour de France. Et sur le cyclisme, je m'étais posé cette question-là. Pourquoi n'a-t-il pas démarré plus tôt? Ça portait en fait sur un ajout entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil autour de 1964. Et j'essayais de voir là comment se dégage une curieuse représentation du héros, mais qui n'est pas vainqueur, c'est le cas de Poulidor, alors que le vainqueur, qui est Anquetil, lui, n'est pas héros. Et curieusement, je pouvais retrouver l'équivalent, ce héros non vainqueur, très facilement, dans un ensemble de romans, donc des prix Goncourt. Ça, c'était le premier colloque. Le deuxième, ensuite, c'est intitulé porté sur l'invention littéraire du français moyen. Ça, c'est une idée assez forte de notre projet, c'est que en 58 et 81, après le désastre de la débarque de 1940, et malgré un effort de remotivation, de remobilisation de spirituelle et symbolique, je vais dire, de l'identité nationale faite par De Gaulle, il y a, disons, une identité française qui pose désormais problème. Ça ne va plus de soi d'être français, ni de rétablir une espèce de continuité historique illusoire en faisant comme si le gouvernement de Vichy n'avait pas vraiment existé, n'avait pas vraiment collaboré avec l'occupant. Donc c'est une période délicate sur ce plan-là. Donc nous voulons étudier ce tremblement identitaire de la symbolique en France, de la symbolique nationale en France, mais nous le prenons en tant que littéraire, donc nous allons vers des textes, vers des dispositifs sémiotiques, on va aussi vers le cinéma, la musique, je l'ai dit tantôt, et on essaie de voir comment le ciment national survit à cette crise identitaire, ou bien la traverse et là finit par changer, disons, la problématique identitaire française. Et donc, on s'est avisé là du fait qu'à un moment donné, il y a une représentation curieuse qui avait déjà été proposée dans les années 20 et 30, mais qui n'avait pas vraiment pris racine, tandis que là, dans les années 60, soudain, ça devient une espèce de lieu commun dont tout le monde parle, c'est la représentation du français moyen. Et donc il y a des textes de Daninos, de Dutour, des chansons de Sheila, des films pardon, qui mettent en scène ce curieux personnage qui... Enfin, moi j'avais présenté ça dans ma communication, donc ça c'était encore l'an passé à Liège, les actes vont être édités pour cet automne. Moi j'avais présenté ce français moyen un peu comme le Dahu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Dahu.
Redites-le nous.
Oui, c'est donc cet animal que l'on présente dans les colonies de vacances en montagne, et on fait croire aux enfants que le Dahu existe. C'est un animal donc qui a quatre pattes, mais il a les deux pattes de droite sont plus longues que les deux pattes de gauche. Pour la raison suivante, c'est que le Dahu fait donc le tour du sommet de la montagne, et à force de faire le tour en marchant toujours sur les mêmes pattes, les deux pattes qui sont les plus proches du sommet ont fini par se raccourcir. Mais évidemment, c'est un animal imaginaire dont on parle aux enfants pour un peu à la fois les faire jouer, les faire rêver, peut-être un peu pour leur faire peur aussi. Et je dirais que le français moyen, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, bien entendu, quand on dit aux enfants dans les classes de neige Allez dehors chercher une dahue, même si une dahue n'existe pas, à peu près tous m'ont vu ou entendu, m'ont reniflé, etc. Français moyen, c'est la même chose. Statistiquement, c'est à peu près impossible à définir. Des sociologues s'y sont essayés pendant ces années-là, aucun n'est vraiment parvenu. Et personne n'arrive vraiment à dire que français moyen, c'est oui, ou bien et voilà. Donc, ça marche un peu comme le dahu, c'est une espèce de spectre sociologique qui flotte comme ça dans l'imaginaire social. Et on a essayé d'étudier la logique de cette apparition-là, les formes que ça pouvait prendre dans les textes. Dans les communications, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu une communication extraordinaire, d'ailleurs, sur la chanson de Sheila, Petite fille de français moyen, qui devriez la mettre peut-être sur votre site.
Non, mais c'est, je m'en souviens.
Ok. Et moi, j'avais travaillé, attendez, sur les chansons sur le travail, tenez, le genre de chansons d'Henri Salvador.
L'année d'avant, vous avez fait quelque chose sur un dessin animé où il y avait une histoire de cyclisme, de vélo.
C'était il y a plus longtemps, mais ça...
C'était il y a plus longtemps, je me souviens de ça.
Je vous avoue que je m'en souviens pas, moi. Non.
Non, mais parce que je sais qu'on a vu le dessin animé après, et c'était extrêmement drôle.
Oui.
Bon, enfin, ça reviendra peut-être. Mais alors, ce français moyen et cette exception française, c'est l'envers et l'endroit de la même chose ou quoi ?
Oui, ils sont dans un rapport de dialectique. Après avoir étudié ce qui est présenté comme étant une sorte de norme imaginaire et qui permettrait de réunir tous les Français autour d'un même modèle d'existence, on essaie de voir là ce qui est présenté en conjoncture comme étant à la fois exemplaire et unique. Hein, ce qui est un peu paradoxal. Et donc, on explore ces deux jours-ci toutes les formes de cette exceptionnalité française, hein, donc avec cette hypothèse qu'elles seront retotalisées un jour dans une expression qui est exception culturelle ou exception française, donc typique, ou en tout cas, que le fait qu'il y ait eu autant de personnages présentés comme étant soudainement incomparables, et c'est le paradoxe vraiment, ils sont... Parce qu'ils sont incomparables, ils sont typiques de la nation, ce qui est un paradoxe logique. Mais au moins, cette préparation-là aura permis d'accroître l'acceptabilité de l'idée qu'il y ait une exception culturelle française exportable. Alors que, disons, une estimation par une histoire continue, qui serait celle de la France héritière des Lumières, vous savez, après Vichy, c'est difficile à faire passer.
Voilà. Vous allez parler sur quoi ?
Moi demain, donc je parle sur les grimpeurs dans les années 58-80, mais un peu plus large, je vais recommencer en 47. Donc le grimpeur autour de France vient de moi, il vient du début du siècle, des années 20 en fait, ça commence à naître. Au départ, donc Desgranges fonde le Tour de France, et ce n'est que deux ou trois années plus tard, mais assez vite, hein, c'est en 1905, si je me souviens bien, que... la montagne est intégrée au parcours, d'abord avec les Alpes, le baron d'Alsace, et puis en 1910, il y intègre les Pyrénées, directement d'ailleurs avec cette étape dite mythique des quatre grands cols pyrénéens. Et donc au début, dans les années qui vont jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a des gens qui sont plus forts en montagne qu'ailleurs, mais il n'y a pas encore cette fixation sur un type de coureur que la montagne aurait elle-même façonné, aurait appelé, somme toute. Hein, pour Desgranges, dans les premières années, tous les coureurs sont forts, et ils ont une sorte de triple vertu, la ténacité, la volonté et le courage, et c'est avec ça qu'ils doivent gravir tous les itinéraires, quels qu'ils soient. Cependant, au fur et à mesure que le peloton grossit, que le tour s'affine aussi, que les règlements évoluent, que les machines changent également, que les médias qui rendent compte du tour changent, il se produit une spécialisation, une sorte de division du travail cycliste en quelque sorte, et donc une spécialisation des coureurs. Donc bientôt il y aura, en tout cas après-guerre ça se dessine, il y aura des sprinteurs, des rouleurs, des finisseurs, des leaders, des domestiques, tout cela, et il y aura le grimpeur. Alors dans une première période qui va de 47 à 60 pour moi, là vous avez des grimpeurs vraiment triomphants qui... Pour lesquels la montagne est décisive, c'est là qu'ils gagnent vraiment le Tour de France, mais ils sont encore capables aussi d'être des bons rouleurs. Donc c'est la période de ces espèces de géants de la route moderne qu'ont été Fausto Coppi, surnommé Campionissimo, Charmigon, Bahamontes, des gens comme ça. Cependant, par la suite, le grimpeur va connaître une sorte de déclin, et paradoxalement, c'est là que pour moi, il devient vraiment une exception française, même si, curieusement, cette exception française est incarnée par des Espagnols. C'est la période 60-69, c'est le règne alors des rumeurs. Désormais, la montagne n'est plus décisive. Ceux qui gagnent le tour, ce sont des gens comme Jacques Anquetil, Lucien Aymar, Gimondi, qui est encore un grimpeur un petit peu. Mais c'est vraiment dans le contre-la-montre que ces gens-là gagnent le tour. Et d'ailleurs, je me base pour tout cela sur une série de documents d'archives, des photos et tout cela, mais aussi essentiellement sur l'œuvre d'un très grand écrivain sportif qui est Antoine Blondin, qui a écrit des chroniques à l'équipe, qui a fait des romans, enfin, beaucoup de textes très, très importants sur le sport notamment. Bon, ben, Blondin va faire un jeu de mots qui dit tout, enfin, qualifiant les années Anquetil, et Jacques Anquetil en particulier, il va plus parler non plus du géant de la route, mais du gérant de la route. Donc, c'est un très bon calembour, mais qui dit bien ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, cependant, il y a bien un coureur qui devient l'exception, qui est le petit grimpeur de petit gabarit, qui pousse des petits braquets, qui est très léger, qui est noiro, c'est-à-dire espagnol, et qui est capable de... qui n'apparaît en fait que lorsque la pente est extrêmement raide. Pendant tout le reste du tour, le grimpeur, on ne le voit pas. Il est perdu dans le peloton, il ne sprinte pas, contre la montre, généralement, il est nul. Et en plus, si c'est un type qui grimpe très très bien, il descend à peu près comme un fer à repasser. Il est incapable, parce qu'il n'a pas assez de poids, de vraiment suivre les autres. Donc, il est vraiment juste bon là, dans les 8-15% de pente, et là, comme un capri, comment est-ce qu'on appelle ça ? Cette espèce de chèvre,
un cabri,
voilà, comme un cabri, il parvient...
Cabri, c'est fini.
Cabri, c'est fini, oui, c'était...
C'est une chanson.
Chanson qui me remontait de loin, et donc comme un cabri est capable de virevolter dans les côtes, et donc de paraître extraordinairement véloce et en santé, là, où tous les autres sont en pleine souffrance, quoi. Et donc, là, il y a un personnage exceptionnel. Je vais essayer de montrer demain comment ça s'ajuste dans l'imaginaire social de l'époque. Après ça, c'est encore pire. Le grimpeur, là, dans les années qui vont de 69 à 81, qui sont les années, disons, de Merckx et puis de Bernard Hinault, donc de champions qui, eux, vont être à la fois des grands grimpeurs et des grands roueurs, mais en enchaînant des grands braquets. Ce ne sont plus vraiment des grimpeurs au sens exceptionnel. Et là, je veux dire, le grimpeur devient un peu folklorique, ça devient presque un clown. On habite un maillot à pois, le maillot à pois rouge qui arrive en 75. Et donc, voilà, je vais essayer de montrer à la fois cette évolution-là et puis de rapporter ça à des mouvements idéologiques plus larges. Par exemple, comment est-ce que cette représentation du grimpeur là dialogue avec celle du travailleur spécialisé dans l'avènement de la société salariale? Comment est-ce que ce petit grimpeur-là jure un petit peu par rapport aux deux grandes idéologies du sport qui sont en débat dans les années 50, à savoir le gaullisme qui impose, d'ailleurs sont en parenthèse, ce sont des ex-fonctionnaires de Vichy comme Brotra, le champion tennistique, qui va être l'un des responsables du gaullisme sportif, où là il s'agit de redonner une sorte de vigueur nationale à jeunesse. Et d'autre part, le groupe communiste qui, lui, va considérer le sport directement comme une sorte de nouvel opium du peuple, et donc qui est à proscrire. Mais le grimpeur espagnol, par rapport à ça, est une sorte de martien, quoi. Donc, en gros, ce que je vais raconter... Je voulais dire un mot aussi, tantôt, m'avait présenté comme l'organisateur du colloque, c'est vrai, mais je fais ça avec Sylvain David, ici, mon collègue.
À qui est Sylvain David?
Sylvain donc, est un spécialiste de la littérature contemporaine. Il a fait un livre très fort sur Cioran, sur l'œuvre de...
Quelle est sa fonction? Il enseigne.
Il est professeur ici à l'Université Concordia. Et donc, lui, il s'intéresse à cette littérature contemporaine. Aujourd'hui, il travaille sur les liens entre la littérature et la politique avec des collègues de Kingston et de l'Université Queen's. Donc, littérature et politique dans le roman contemporain, chez des gens comme Houellebecq, Vorodine et autres. Et Sylvain David est aussi un spécialiste rare de mouvements de musique alternatifs, notamment du punk, dont il va parler tout à l'heure.
Alors, peut-être, puisque votre objet c'est l'imaginaire social, ça c'est intéressant, il y a une méthodologie, il y a un objet, il y a un groupe de recherche. Pouvez-vous nous donner quelques publications que vous avez faites, les indiquer?
Donc au sein du pour le groupe
au sein ou pas au sein de ce groupe, mais vos publications de livres ou d'articles qui vous paraissent les plus intéressantes pour l'auditoire.
Ah bon, ben moi j'ai travaillé beaucoup donc sur ma sociocritique, c'est ma spécialité. Donc dans les livres que j'ai pu écrire, il y a par exemple Imaginaire social et folie littéraire. Le Second Empire de Pouringagne, c'est le titre complet qui est paru aux presses de l'Université de Montréal en 2009, je dis bien. J'ai aussi publié un livre qui s'appelle La contradiction du poème, poésie et discours social au Québec de 1948 à 1953. J'ai fait des livres alors plus amusants sur, par exemple, sur l'état de la langue au Québec avec mon ami Benoît Melançon. Nous avons fait deux livres là-dessus. L'un s'appelait Le village québécois d'aujourd'hui. L'autre en était la version augmentée sous le titre Dictionnaire québécois instantané. Avec Michel Biron, j'ai écrit un livre qui applique à la théorie certains principes de réflexion que nous avons en sociocritique ou en analyse de discours. Et ce livre s'appelle « Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?» Non, je me trompe. Ça, c'est le titre d'un autre sociocriticien que j'aime bien, André Bellou. Notre titre à Michel Biron et moi s'intitule « Un livre dont vous êtes l'intellectuel » qui retrace l'histoire de la théorie en Europe, disons de 1960 aux années 2000. Et puis j'ai publié beaucoup d'articles sur un tas de choses, d'écrivains, Corbière, Rabault, Baudelaire, Hugo.
Très bien. Je remercie beaucoup Pierre Popovic.
Merci à vous.